RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Hier, c'était la journée mondiale de la bicyclette, alors tout logiquement, on parle vélo ce matin dans Je pense donc j'agis. On va d'ailleurs faire un peu de science-fiction ou d'anticipation, puisqu'on va se demander à quoi ressemblerait un monde où nous irions tous à vélo. Alors si vous nous écoutez, que vous habitez en zone rurale, à la campagne, vous vous dites sans doute qu'ils sont bien gentils ces petits citadins, mais adopter le vélo comme mode de transport au quotidien par chez nous, c'est impossible. Et bien justement, dans la seconde partie de l'émission, on se demandera comment faire pour que cela devienne possible. Rendez-vous à 10h, soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages pour rêver avec nous d'un monde à vélo. Dites-nous si c'est pour vous un horizon désirable et expliquez-nous pourquoi. Est-ce que le vélo peut être une clé ou un outil pour repenser notre vie en société, pour inventer un monde de vie compatible avec les limites planétaires? Et si oui, comment faire pour passer de notre vie, mode de vie actuel à ce nouveau mode de vie? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
On imagine donc... Bonjour Anne-Carlio.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous. C'est le pull qui
vous perturbe. C'est le pull, c'est Pierrick qui m'a perturbé. On imagine donc un monde où le vélo serait le mode de déplacement ce matin. Pourquoi ce sujet, a priori, un peu étonnant?
Pour se dire que le pire n'est pas certain et se le dire concrètement, l'envisager, l'imaginer. Nous avons une conscience aiguë de l'inadéquation de nos modes de vie avec les limites planétaires. Nous savons que si nous continuons ainsi, nous allons dans le mur. Et pourtant, nous ne réussissons pas collectivement à changer. Alors prendre une heure pour se dire que le changement est concrètement possible et que le vélo pourrait en être le vecteur, ça nous a paru une bonne idée. Alors pourquoi le vélo? Pour répondre, je vous cite un extrait du livre récemment publié par l'un de nos intervenants. Face à l'hégémonie automobile, l'imaginaire humain a besoin d'un objet comme support à un récit différent. Le vélo a été, bien avant les éoliennes, l'objet qui incarnait l'écologie politique naissante. Par exemple, en 1972, les tout jeunes amis de la Terre manifestaient avec le mot d'ordre suivant « des vélos, pas des autos ». Fin de citation, c'est de Joseph Dalloin dans son livre « La bataille du vélo ». Alors comme l'a été jusqu'à présent la voiture, le vélo est un objet autour duquel on peut développer toute une culture. Et aussi, et ça nous parle à RCF, le vélo, on en a tous fait l'expérience, peut être une source de convivialité et de joie. Voilà pourquoi, Melchior, on imagine ce matin un monde où on se mettrait tous en selle.
Et pour imaginer ce monde, on a le plaisir d'accueillir ce matin trois invités jusqu'à 10h.
Oui, et je salue d'abord Aurore Fabre-Landry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte vélo et mobilité décarbonée. Votre entreprise Sustainable Mobilities accompagne les entreprises du secteur des transports et les collectivités pour les aider à intégrer l'écomobilité dans leur stratégie et leurs pratiques. Je précise que vous êtes polytechnicienne, donc ingénieure. Et peut-être que ça dit qu'on vous imaginait pas forcément à ce poste. Vous nous en direz plus dans l'émission. Bonjour aussi à Priscilla Parard.
Bonjour.
Merci de revenir dans Je pense donc j'agis. Vous étiez venu il y a tout juste 2 ans déjà pour parler vélo. C'était peu de temps après la sortie de votre livre « Réenchantons le vélo » paru aux éditions Terre Vivante. Vous êtes consultante et formatrice en santé et environnement. Vous travaillez sur les questions de transition écologique dont les mobilités actives et vous pratiquez vous-même le vélo-taf et le voyage à vélo. Et bonjour enfin à vous Joseph Dalloin.
Bonjour.
Vous êtes venu plusieurs fois dans Je pense donc j'agis parler vélo. Vous travaillez actuellement pour le mouvement Laudato aussi, au sein duquel vous êtes responsable finance et climat. Mais si on vous invite, c'est surtout donc parce que vous êtes un fervent adepte et un militant du vélo. Vous avez été pendant 4 ans le secrétaire général de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre paru il y a quelques mois, donc La bataille du vélo. Vaincre le système automobile, c'est paru aux éditions de l'Escargot.
Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette émission. On va commencer, Anne, par la chronique Tout est lié. Et ce matin, nous accueillons Alexandre Poidatz.
Bonjour Alexandre.
Bonjour tout le monde.
Vous avez choisi ce matin d'imaginer un monde où nos responsables politiques se déplaceraient à vélo.
Puisque vous nous invitez à jouer sur les imaginaires, je vous propose une situation où le candidat à l'élection présidentielle en France ferait son dernier meeting de campagne à vélo. Imaginez, on serait entre Aix-en-Provence et Marseille. 30 km à vélo, pendant lesquels il soufflerait dans un micro attaché à son casque et dont le discours serait retransmis à la radio. Autour de lui, 3000 vélos qui le suivent, comme un Tour de France. Ce serait puissant, Car si on doit tous faire des efforts face à la transition écologique, certains portent plus de responsabilités. Certains portent même un pouvoir symbolique d'influence sur notre culture commune, comme la fonction de président de la République.
Et que dirait-il, ce candidat à l'élection présidentielle, lors de son meeting à vélo ?
Il dirait que si quelqu'un choisit de passer de la voiture au vélo pour aller au travail, il doublerait son temps de trajet. Il va certes perdre sur l'ensemble de sa vie active 0,6 années à cause du vélo, mais il va aussi gagner 2,5 années d'espérance de vie. Il nous raconterait que le vélo ne pollue pas quand il roule, mais aussi très peu lors de sa fabrication. Il dirait que le vélo est le moyen qui pourra réconcilier les privilégiés des hypercentres et les zones périphériques des gilets jaunes. Une France où on pourrait trouver tout service essentiel à moins de 8 km de toute commune. Une France avec des voies vertes partout, et seuls les gros axes encore dédiés à l'automobile. Le pays serait changé.
Et ce serait donc un nouveau projet de société.
Exactement. Ce candidat montrerait finalement que le vélo est une métaphore d'une France à un rythme différent, plus lent que nos quotidiens actuels. Pourquoi ralentir ? Pour être au rythme de la nature, profiter de la vue des étoiles dans le ciel, profiter du vent dans les arbres parce qu'on a décidé de consacrer son après-midi à une promenade en forêt, profiter du chant des oiseaux parce qu'on s'arrête pour les écouter. Ralentir parce que les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas aller aussi vite que la productivité actuelle et pour avoir le temps de s'occuper des plus précaires. Ralentir le rythme, c'est pouvoir mieux contempler. Ralentir le rythme pour pouvoir avoir le temps de vivre. Ah, et j'oubliais de vous dire, j'ai une bonne nouvelle. Ce candidat existe. Enfin, pas dans la réalité, mais dans un roman qui s'appelle « Paresse pour tous ». Je vous le conseille vivement, il raconte l'histoire d'un candidat à l'élection présidentielle en France, Émilien Long, prix Nobel d'économie, qui aurait pour programme de réduire le temps de travail à 15 heures par semaine. Seulement 3 heures de travail par jour, avec la promesse que le temps de travail, libéré, permette de profiter de la vie dans toutes ses composantes.
Merci beaucoup Alexandre Poidatz pour cette chronique « Tout est lié » que vous pouvez réentendre sur notre site rcf.fr. Vous pouvez réagir et nous parler du vélo au 04 72 38 20 23. Là encore, ça nous donne beaucoup de matière pour démarrer, Anne.
Bah, peut-être justement pour se lancer dans les échanges, je vous propose qu'on fasse un tour de table ou de micro pour que chacun, chacune puisse dire peut-être ce qui a attiré son attention particulièrement ou ce qui lui parle dans la chronique d'Alexandre, Aurore Fabre-Landry.
Alors moi déjà ça me parle beaucoup parce que ça me rappelle mon vécu, pas quotidien parce que je suis pas tous les jours à vélo, mais enfin au moins 2-3 fois par semaine, et un trajet à vélo dans Paris. Moi j'habite la périphérie de Paris, mais quand j'arrive à travers les forêts quand même qui bordent Paris, j'entends les oiseaux, je vois les fleurs qui s'ouvrent, et c'est réellement un trajet devient un bonheur, et ça donc pour moi depuis l'année 2000 à peu près à Paris, donc 24 ans de bonheur à vélo, avec bon quelquefois quelques petites frayeurs, faut l'avouer, mais globalement ça ressemble beaucoup à mon expérience vécue, surtout au printemps d'ailleurs.
Joseph Dalluin.
Eh ben, faisons en sorte que ça ne soit pas utopique et que ça devienne la réalité. C'est ça que ça m'évoque, surtout.
Et Priscilla Parard.
Alors moi, je rejoins ce que dit Aurore et Joseph, ce qu'ils disent. Mais ça me rappelle aussi qu'en 72, René Dumont, qui était candidat à l'élection présidentielle, était déjà à vélo. Et que il y a des pays comme les Pays-Bas où le Premier ministre se déplace à vélo. Donc ça existe. Donc c'est... Je pense que c'est des choses qui doivent aussi nous incarner le changement et qui font que c'est possible. Et effectivement, après, il faudra se poser les questions de comment rendre ça possible.
J'en profite, puisque vous parlez de René Dumont, pour renvoyer, pour ceux qui voudraient se souvenir ou découvrir cette histoire de la campagne de René Dumont, il y a un livre de Arthur Nazaret qui est sorti, coédité par Reporter, qui raconte cette histoire-là. Le titre m'échappe, mais vous trouverez ça assez facilement sur Internet. Je vous propose, pour continuer dans la métaphore, ou plutôt l'anticipation, puisque Joseph Dalluin, vous disiez que ce qu'il faut, c'est souhaiter que ce soit pas seulement une utopie. Si on va au-delà de la candidature d'une personne à l'élection présidentielle, comment les uns et les autres vous imagineriez un monde où ça serait devenu réalité, où on irait tous à vélo ? Joseph Dalluin, pour commencer.
Pour moi, la question, elle n'est pas tant imaginaire, mais assez concrète, à savoir, en fait, aujourd'hui, face aux limites planétaires, face à l'effondrement possible de tout un tas de systèmes, face à la raréfaction des énergies fossiles, face à la concurrence pour les métaux rares, etc., en fait, le système, notre système productif en général, mais son volet de déplacement est vraiment très vulnérable. On l'a vu au moment de la crise, de la crise ukrainienne qui n'est pas finie, mais au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec un petit choc énergétique. On l'a vu un peu avant au moment du blocage des raffineries par les grévistes pendant la lutte contre la réforme des retraites. Notre système de déplacement est extrêmement vulnérable. Et donc, en fait, entre aujourd'hui et 2050, je pense qu'on a pas mal de surprises à attendre. Et du coup, par rapport à 2050, moi, très concrètement, je m'interroge à quoi ça va ressembler, parce que qu'on réussisse à être collectivement volontariste sur une transformation du système de déplacement et créer un système de déplacement, on va dire, soutenable, dans lequel le vélo aurait une place importante, ou qu'on n'y réussisse pas, et ben, en fait, le système de déplacement sera forcément différent, un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'il y a une étude assez intéressante qui a été publiée par le Forum Bimobile et élaborée par l'Institut Momentum, qui s'appelle Île-de-France 2050, qui est très centrée autour de la question des mobilités, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est une étude assez ambivalente, enfin c'est un exercice de prospective, et c'est assez ambivalent parce que d'un côté c'est assez effrayant, face à tout un tas de ruptures, il y a des choses assez terribles qui peuvent se passer dans les décennies à venir. Donc dans leur scénario prospectif, l'Île-de-France perd la moitié de ses habitants, avec tout un tas de phénomènes de paupérisation, de choses assez délicates. Mais en même temps, ce que ça suscite, c'est un report, enfin beaucoup beaucoup moins de déplacements de fait, un usage assez massif du vélo ou d'autres engins non motorisés, enfin qui ne nécessitent que l'énergie des humains pour fonctionner, une vie locale beaucoup plus intense et donc une forme de ralentissement des modes de vie qui correspond en fait, je pense, à une aspiration, comme le disait Alexandre, de la majorité de nos concitoyennes et concitoyens. Donc pour moi, la question, je ne sais pas, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait, d'imaginer un futur idéal, parce que j'ai l'impression que la réalité va nous bouleverser dans tous les cas, et dans son ambivalence. Et ce que je trouve très intéressant avec le vélo, c'est que, dès aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à utiliser le vélo au quotidien, par choix, par contrainte, mais en tout cas, en expérimentant un mode de vie centré autour d'un mode de déplacement autonome, relativement lent, tourné vers l'extérieur, qui utilise notre énergie métabolique. On est un peu en train de dessiner le monde de demain dans son ambiguïté, dans sa largesse, quoi.
Alors, même si vous dites que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, moi, je vais continuer quand même à poser la question à nos deux autres intervenantes, parce que peut-être que ce qui est intéressant là-dedans, même si on a bien conscience que c'est un exercice de fiction, c'est que se projeter, ça permet de rendre les choses envisageables, peut-être plus concrètes. Alors, je sais pas, Priscilla Parard, est-ce que vous lanceriez dans une description du monde tel qu'il pourrait être en 2050 si on allait tous à vélo?
Moi déjà, ce que j'ai envie de dire, je pense que c'est important de se projeter positivement, et je pense que les nouveaux récits ou ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires en font partie, et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de passer à l'action, et que je pense que le vélo, il y a pas mal de choses. Si on regarde l'économiste Frédéric Errand qui a écrit le Retour de la bicyclette, on voit que c'est un super outil de résilience, je reprends ces mots, qui a permis de traverser différentes crises économiques, par exemple comme les années 30, de sortie du Covid, parce que c'est low-tech, parce que c'est accessible, et je pense aussi parce que le vélo, tout simplement, ça rend heureux. Alors c'est peut-être l'expérience de beaucoup de cyclistes, et rien que pour ça, j'ai envie de dire, il faut le faire, parce que individuellement, on fait pas forcément du vélo pour des raisons écologiques, on le fait pour des raisons aussi de bien-être. Mais effectivement, pour répondre à votre question, je pense que oui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se contracter, qu'on commence à franchir les limites planétaires une par une. Mais justement, le vélo, ça permet effectivement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un super outil pour se maintenir en bonne santé. Et je rappelle, votre chronique, elle me faisait penser à l'étude de l'épidémiologiste Kevin Jean, qui montre pour que 1 km parcouru à vélo, c'est 1 euro de coût social évité. Et au-delà de ça, je pense qu'un monde 2050 massifié de vélos, pour moi, c'est un monde de silence, sachant qu'on vit surtout dans le bruit, dans nos villes, qui est la première cause de nuisance environnementale. C'est un monde plus apaisé, c'est un monde où, comme le disait le chroniqueur, on peut se reconnecter à l'autre, à soi, à notre environnement. C'est un monde où on sent les odeurs, peut-être du printemps, ce qu'on n'a pas quand on est au milieu des véhicules diesel. C'est un monde en santé, hein, j'ai envie de dire, et où on aura peut-être plus d'attention justement aux choses, et donc de faire de cette contrainte qui sont les limites physiques de la planète, d'en faire peut-être une force pour un bien vivre. Et juste, ça me fait penser à votre chronique de tout à l'heure, en fait le vélo ça permet aussi d'aller plus vite, hein, parce qu'on sait que la moyenne vélo c'est à peu près 14-15 km/h, et en fait c'est la même moyenne que les bouchons en Ile-de-France, et que Joe Dassin le disait déjà dans les années 70, qu'à Paris, à vélo, on dépasse les autos, et que une phrase aussi de vélorévolutionnaire, c'était ralentir pour aller plus vite, hein, au sens aller plus vite en termes de réflexion. Et je pense que voilà, un monde 2050, enfin voyons les choses aussi positives, et je pense que le vélo peut aider justement dans nos vies de manière individuelle et collective à vivre au mieux dans ce monde qui sera bien entendu très changeant.
Aurore Fabre-Landry, sur la même question, vous arrivez vous à nous faire un récit un peu de science-fiction, d'anticipation?
Oui, moi la première image que ça m'inspire, c'est je suis le matin, j'ouvre ma fenêtre, j'entends les oiseaux chanter, pas de bruit. Je me dis, tiens, on est dimanche. J'ouvre les yeux et je vois tous les vélos qui passent en bas de chez moi. Je me dis, ah mais non, on est lundi, il faut vite que j'aille au travail. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce côté calme. Il faut savoir que le calme est le premier facteur de choix résidentiel quand on déménage. Ça, c'était sorti dans une étude que j'avais eu le plaisir de coordonner il y a quelques années pour la COP21 qui avait donné lieu aux accords de Paris, où nous avions travaillé justement sur des scénarios de mobilité à l'horizon 2050 précisément, qui étaient tous basés sur des tendances déjà observées ou bien sur des aspirations exprimées par les Français. Voilà. Et donc, cette recherche de calme, elle est absolument fondamentale. On déménage souvent parce qu'on veut aller chercher le calme, et aujourd'hui, le calme, malheureusement, on ne le trouve pas dans nos centres-villes, donc on part de plus en plus loin vers la périphérie. L'autre image que ça m'inspire, en 2050, ces villes à vélo, ce sera de retrouver, de voir dans la rue des usagers qu'on voit peu ou qu'on ne voit pas seuls, en tout cas, qui sont les plus fragiles, que sont les enfants. Déjà, il faut savoir que l'âge d'autonomie des enfants pour aller à l'école ne cesse de reculer. Les enfants sont beaucoup accompagnés en voiture, ça crée du danger aussi pour ceux qui sont à pied, et c'est un cercle vicieux, hein, qui est globalement le cercle vicieux de la ville automobile finalement, hein. Les trajets qu'on pourrait faire à pied ou à vélo, on ne les fait pas souvent à cause de la dangerosité. Et donc c'est les enfants, on les voit plus jouer dans les rues depuis bien longtemps, à part quelques exceptions. Et bien dans notre monde de 2050, les enfants seront de retour pour se déplacer seuls, bien plus jeunes, dans la ville qui sera devenue beaucoup plus sûre, pour jouer dans les rues tranquilles, résidentielles. Et de la même manière, on retrouvera aussi beaucoup plus de seniors. Un voyage aux Pays-Bas suffit à vous convaincre que une ville à vélo, c'est très favorable aux seniors et aux personnes à mobilité réduite, car avec un bon réseau cyclable, on peut avoir des tricycles seniors qui permettent de se déplacer très commodément, et vous avez pour les personnes les plus lourdement handicapées des fauteuils roulants qui vont à une vitesse bien supérieure à celle qui est autorisée d'ailleurs en France, qui leur permettent de se déplacer extrêmement aisément sur le réseau cyclable à travers leur ville.
Vous êtes sur RCF ce matin, vous entendez certainement qu'on parle du vélo, et puis on fait un peu de science-fiction puisqu'on essaye d'imaginer un monde où nous irions tous à vélo, et vous aviez d'ailleurs la parole pour réagir, hein. Est-ce que ça vous fait rêver d'ailleurs un monde où on serait tous à vélo? Dites-nous si c'est pour vous un horizon désirable, expliquez-nous pourquoi, et si oui, comment faire pour passer de notre mode de vie actuel à ce nouveau mode de vie. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos trois invités dans cette première partie, Aurore Fabre-Landry, Priscilla Parard et Joseph Daluin.
En décrivant ce monde de 2050, on fait apparaître en creux notre monde d'aujourd'hui avec les soucis générés par l'automobile et son système. Et on a souvent l'impression qu'en fait, ce monde-là, il est une évidence, que c'est pas possible de faire autrement et qu'il en a toujours été ainsi. Alors, Joseph Dalloin, dans votre livre, dans toute la première partie, justement, vous racontez qu'en fait, il n'en a pas toujours été ainsi et on comprend aussi que d'autres choix auraient pu être faits et que finalement, ce n'est pas du tout une évidence, contrairement à ce dont on a l'impression.
Oui, en remontant un peu le fil de l'histoire, ce qui me semble intéressant d'avoir en tête, c'est que l'invasion automobile, pour le dire comme ça, est vraiment le fruit de politiques délibérées, d'un travail politique d'agents industriels, d'hommes et de femmes, enfin de d'hommes politiques en l'occurrence surtout, qui ont porté cette vision-là. Et à la fois, il ne faut pas nier le fait que l'automobile a incarné dans l'opinion publique une forme de... Voilà, le progrès a été désirable et en même temps, il y a aussi eu énormément de luttes, de discours contradictoires, de populations qui ont pointé que, en fait, l'automobile allait bouleverser la vie civique, allait évincer les enfants de l'espace public, comme vient de le dire Aurore, changer radicalement leur mode de vie et anticiper quelque chose d'assez négatif. Il y a des monographies aux États-Unis, par exemple, sur ces sujets-là, comment en fait on a progressivement construit des villes à travers l'automobile contre un certain nombre de populations. En France, il y a énormément de controverses autour des violences routières, de la traversée des villages par les nationales qui ont vraiment détruit la vie locale, qui ont détruit un mode de vie paysan qui était désirable pour ces populations-là. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que ce qui a été construit peut être déconstruit, en tout cas peut être transformé. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je pressens et on voit aujourd'hui un peu un désir d'autre chose qui s'incarne en premier lieu par les gens qui prennent la décision de se déplacer à vélo plutôt qu'autrement. Il me semble de plus en plus de controverses autour de la qualité de l'espace public, autour de la construction de nouvelles routes. On en a pas mal parlé autour de la 69 entre Toulouse et Castres, mais en fait des luttes contre les projets routiers, il y en a plus de 80 aujourd'hui en France. Donc on est vraiment arrivé, je pense, à la fin d'un cycle où la route et la voiture incarnaient quelque chose de positif et en fait les externalités négatives, mais au-delà des externalités, donc c'est-à-dire les dommages environnementaux ou ce genre de choses, au-delà de ça, l'imaginaire véhiculé par la route, les automobiles et les véhicules motorisés ne font plus rêver. L'accélération permanente des flux, l'accélération permanente des trajets ne fait plus rêver. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'études, notamment faites par le Forum Bimobile, qui pointent que l'aspiration majoritaire dans le pays, c'est ralentir, vivre en proximité, mieux maîtriser son temps. Je formule l'espoir que cette aspiration puisse se transformer concrètement en politique publique, en refaçonnement de l'espace public, en un nouvel aménagement du territoire, qui à mon avis devrait plutôt être un ménagement du territoire. Donc cesser de nous forcer à accélérer, cesser d'augmenter les flux de marchandises, de personnes, cesser d'augmenter les vitesses en permanence pour une vie désirable.
On va tout de suite accueillir Luc qui habite dans les Ardennes. Bonjour Luc.
Oui, bonjour. Merci pour cette super émission. Franchement, je suis un adepte du vélo. Donc, moi, j'ai commencé le vélo à 6 ans et j'en ai fait toute ma vie, toute ma carrière. J'ai eu une carrière internationale, donc j'ai pu faire du vélo en Arabie Saoudite, au Maroc, dans des pays où la pratique du vélo ne se fait pas beaucoup. Originaire des Ardennes, mais il faut savoir que dans les années 60, tout le monde se déplaçait en vélo et puis d'un seul coup, la voiture est arrivée et le vélo est devenu un déclassement social, ce qui était terrible. Je voulais dire aussi sur le vélo, c'est un sport. Attention, ça nécessite d'avoir des muscles adaptés de façon à pouvoir appuyer sur les pédales, se tenir au guidon. Et donc, ça nécessite de s'y habituer progressivement et de ne pas partir trop rapidement. Malheureusement, j'ai un collègue qui a voulu faire du vélo d'une façon un peu trop brutale et qui est décédé dans une côte où il a voulu trop forcer. Donc, il n'a pas su s'arrêter et limiter son rythme cardiaque. Le vélo aussi, techniquement, nécessite des adaptations. Hein, il ne faut pas oublier que la selle peut, malheureusement, abîmer un peu le fessier, hein, si elle est mal choisie, si on n'a pas les muscles nécessaires. Attention au cale-pied. Hein, combien j'ai vu d'amis qui se sont cassés les jambes parce que, ayant verrouillé le cale-pied, eh bien...
De bons conseils.
Voilà. Tous ces conseils techniques, sont importants et ça demande donc d'être assisté. Alors, soit par quelqu'un qui a une expérience comme moi, ouais. Ou soit par des vendeurs, hein, qui seront susceptibles de pouvoir vous apporter les conseils nécessaires.
Mais c'est intéressant.
C'est formidable. Alors, ouais. Ce qui est important, dans les Ardennes, Luc. Le vélo, c'est le déclassement social. En région parisienne, c'est la classe. Et c'est formidable d'avoir votre collègue là, qui se déplace à vélo dans Paris. Et en plus, ça permet le contact, un peu comme les motards. Les motards sont ensemble. Et bien,
merci beaucoup, Luc.
Et en vélo, vous pouvez discuter avec la personne, homme ou femme, qui est à côté de vous sans aucun problème.
Ah, Luc, il est lancé là. Il fait le tour de France.
C'est passionnant ce qu'il te raconte.
Merci Luc. Non, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Alors sur les territoires et vraiment développer le vélo en zone rurale, on verra ça plutôt dans la seconde partie de Je pense donc j'agis à 10h. Mais peut-être en un mot, José Deluin, parce qu'on doit marquer une pause. Qu'est-ce que ça vous évoque ce petit témoignage?
Alors moi, je mets pas de cale-pied et je vais mollo, même dans les montées. Donc, contrairement à Luc, j'aurais envie de vous dire, le vélo, c'est pas forcément un sport. Ouais. On peut aller à son rythme, c'est accessible à toutes et à tous. Il suffit juste d'aller au bon rythme.
Eh ben merci José d'avoir commenté. Vous continuez de nous appeler pour nous parler du vélo au 04 72 38 20 23. On va continuer d'en parler, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on se demande ce matin dans Je pense, donc j'agis, à quoi ressemblerait un monde où nous irions tous à vélo avec nos trois invités. Joseph Deluin, vous êtes l'auteur d'un livre, La bataille du vélo, vaincre le système automobile, paru aux éditions de l'Escargot. Priscilla Parard, vous aviez sorti un livre il y a quelque temps, Réenchantons le vélo, aux éditions Terre Vivante. Et puis Aurore Fabre-Landry, experte vélo et mobilité décarbonée.
Justement, Aurore, Luc, parmi les nombreuses choses passionnantes qu'il nous disait, le vélo, c'est aussi la possibilité de se sourire les uns aux autres. Est-ce que vous, dans vos pérégrinations dans Paris à vélo, c'est quelque chose que vous remarquez, que vous vivez, et qu'est-ce que ça change?
Oui, alors, c'est un petit... Enfin, oui, tout à fait. Il y a un aspect de convivialité. Hein. On peut se parler techniquement, ce qui n'est pas le cas en voiture, ou sinon en général, c'est plutôt un petit peu en s'insultant quand on a eu un problème de priorité. Alors, au fur et à mesure que le vélo devient plus utilitaire, que le nombre de cyclistes augmente, cette pratique tend quand même un petit peu à se dissiper, hein, parce que les gens roulent, ils vont plus vite. Donc, c'était un petit peu, à mes yeux, un effet de transition. Néanmoins, alors c'est quelque chose qu'on vit bien, par exemple, en faisant les trajets en famille. Moi, par exemple, je fais souvent des trajets avec ma fille qui roule à côté de moi, quand la piste cyclable est suffisamment large pour le faire. Et là, on peut bavarder tout à fait agréablement en roulant. Voilà. Comme on le ferait en voiture, sauf que voilà, on fait un petit peu d'exercice, ça pollue pas, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Maintenant, je pense que cet idéal du vélo tout rose où tout le monde est convivial, bon, le jour où ça devient vraiment utilitaire, où le plus grand nombre utilise le vélo, bah tous les êtres humains sont là avec leur caractère et on peut pas tout miser là-dessus, quoi.
Priscilla Parard, dans votre expérience, le vélo, il change des choses dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres et de faire société, du coup?
Oui, je pense, parce que déjà, le vélo, le rapport aux autres usagers change. Alors, je parle à la fois dans le vélo du quotidien, mais aussi dans le vélo voyage, puisque en fait, on n'a pas effectivement cet habitacle qui nous coupe des autres. C'est aussi apprendre, quand on est dans le trafic, à aussi cohabiter tous les différents usagers, qu'on soit piéton, automobiliste ou cycliste, les uns avec les autres. Oui, et puis le fait qu'il y ait cette communication possible, je pense, oui, ça change un peu le rapport à l'autre. Alors effectivement, je rebondis aussi sur ce que dit Aurore, hein, plus on est nombreux, plus... qu'il y a peut-être du coup moins de dialogue à ce moment-là. Mais je pense aussi que si on lit, par exemple, le journaliste Raphaël Kraft, qui faisait des reportages un peu partout dans le monde et en France à vélo, ou encore l'écrivaine voyageuse Derla Murphy, le vélo aussi, c'est ça nous met en position, disent-ils, de vulnérabilité, qui fait qu'on le rapport à l'autre est plus facile. Voilà, il y a un petit peu toutes ces choses, et puis la tension aussi qu'on a forcément. Je ne sais pas si répondez à votre question.
Si, c'était très intéressant. Et on va continuer de vous entendre au 04 72 38 20 23. Après Luc, nous avons Isabelle tout de suite de Cholet. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Alors nous, le vélo, nous aimons beaucoup.
Oui. Allô ? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui.
Nous aimons beaucoup. Nous sommes une famille de 6 personnes. Nous habitons Cholet, donc, et depuis toujours, nous nous déplaçons à vélo. Et notamment mon mari, depuis plus de 30 ans, il va au travail à vélo 2 fois par jour. Enfin, il fait aller-retour 7 km 2 fois par jour. Et ben, c'est génial, quoi. Et moi aussi, je vais à vélo. Je vais partir dans 30 minutes à mon cours en ville à vélo.
Et ben, merci beaucoup, Isabelle, pour votre témoignage. Voilà, le vélo en famille, c'est très important pour elle. Ça, c'est aussi un beau message. Peut-être Priscilla Parard. Pour réagir, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah oui, je pense que déjà de le partager en famille, c'est très chouette. Et puis après, on aurait pu lui demander aussi ce que ça lui apporte aussi, parce que c'est chouette de faire ces 7 kilomètres. Ouais, je trouve que c'est un beau témoignage. Et puis c'est bien aussi d'entendre les femmes, hein, parce qu'on sait qu'elles sont un petit peu moins nombreuses à faire du vélo. Et ou alors, c'est qu'elles sont aussi nombreuses, mais souvent on les entend moins. Donc ça, c'est super qu'elle ait témoigné. Et voilà, je trouve que c'est formidable de donner cet enthousiasme dès le matin, juste avant de partir à vélo. Donc c'est formidable.
Moins de femmes à faire du vélo, dites-vous, et en même temps, je crois que c'est dans votre livre que j'ai lu ça, Joseph Dalluin, le vélo pour les femmes, déjà au 19e, début du 20e siècle, ça pouvait être un outil de liberté.
Oui, bah, il faut pas idéaliser non plus ce que le vélo a fait à la condition des femmes dans l'histoire, mais au moment de l'émergence du vélo, donc à la fin du 19e, il y a tout un tas de controverses autour du vélo. Et en fait, le vélo est une des premières activités physiques effectivement adoptées par certaines femmes. Alors, c'était plutôt dans la bourgeoisie nord-américaine et européenne. Et grâce à l'émergence du vélo qu'il est devenu possible pour les femmes de porter des pantalons dans l'espace public, qu'il est devenu possible de se déplacer en autonomie sans être transportées par... Un cocher, enfin voilà, des professions du transport qui étaient uniquement masculines. Et donc, ça a un peu cristallisé à la fin du 19e, voilà, une forme de féminisme naissant. Je pense que ça, c'est assez intéressant. Mais aujourd'hui, dans un certain nombre de pays dans le monde, la question du vélo, l'utilisation du vélo par les femmes reste quelque chose d'assez sensible. Notamment, c'est l'objet du film, hein, Wajda, avec une petite fille qui fait du vélo en Arabie Saoudite.
Aurore Fabre-Landry, pour vous justement en tant que femme, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le vélo ? Est-ce que ça peut être encore un outil de liberté avec une dimension spécifique ?
Oui, tout à fait. J'ai souvenir, il y a quelques années, j'ai croisé dans la rue près de chez moi une dame qui m'a demandé son chemin et qui m'a expliqué qu'elle elle venait de tout l'autre bout de Paris. Elle avait fait 15 km à vélo et en fait, elle venait de prendre des cours avec une vélo-école. Elle avait appris le vélo à l'âge adulte. C'est quelqu'un qui n'avait pas eu la chance d'apprendre en tant qu'enfant. Et elle me disait, mais c'est extraordinaire. Paris est à moi maintenant et c'est gratuit. Vous voyez, donc le vélo, effectivement, c'est une possibilité de se déplacer pour peu que les infrastructures le permettent, hein, en sécurité, tout. Enfin, c'est absolument crucial ce sujet, hein, mais de se déplacer en tout sens sur des distances très significatives par rapport aux distances moyennes du quotidien. Je vais vous reciter quelques chiffres, si vous voulez, pour fixer les idées. Et ça donne donc une vraie liberté aux femmes en particulier, mais bien sûr aux hommes aussi, aux jeunes, comme on disait, et surtout pour un budget extrêmement réduit. C'est-à-dire que le budget transport ne passe pas à zéro, hein, on peut pas dire ça. Le vélo, ça coûte un petit peu, faut l'entretenir aussi, mais par rapport évidemment aux alternatives, c'est beaucoup moins cher. Je voulais juste rebondir sur les 7 kilomètres que fait l'époux d'Isabelle à Cholet pour aller travailler. C'est rigolo parce que c'est la moyenne nationale en fait de la distance domicile-travail qui est faite par les gens qui vont en vélo-assistance électrique. voyez, pour donc si vous travaillez à 7 km de chez vous, sachez que c'est tout à fait possible. Voilà, une fois encore, pour peu que les aménagements, que la sécurité routière le permette. Hein, mais c'est la moyenne, voilà, des gens qui vont travailler en vélo assistance électrique. Un autre chiffre quand même, par exemple, en Île-de-France, un trajet sur deux fait en voiture fait moins de 3 km. 3 km, c'est 10 minutes à vélo. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, en fait, voilà, à cause de cette insécurité routière, hein, pour la marche et le vélo, on va prendre la voiture pour faire des trajets qui peuvent être largement, plus que largement, faits à vélo, voire parfois à pied. Donc il s'agit de sortir de cette espèce de prison, en fait, qu'on s'est créé nous-mêmes sans le voir venir.
Oui, mais justement, qu'est-ce que vous répondez quand quelqu'un vous dit, parce que c'est fréquent ce genre de remarque, moi je ferais bien du vélo, mais en fait c'est pas assez sécurisé, donc c'est pas possible, en fait. Vous répondez quoi quand on vous dit ça?
Alors, la première réponse que je peux apporter, c'est avez-vous cherché un itinéraire cyclable? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement utile, c'est les calculateurs d'itinéraires cyclables. Il en existe, alors le plus connu est GeoVélo. Bon, on va pas citer, mais Google Maps, voilà, qui est très couramment utilisé par tout le monde, commence à avoir aussi un calculateur qui se tient sur un certain nombre de régions. Mais bon, GeoVélo, voilà, c'est un peu la référence. Il va vous calculer des itinéraires cyclables en tenant compte de la cyclabilité. Les voiries ont été qualifiées en termes de dangerosité pour le vélo. Et parfois, on pense qu'on n'arrivera jamais à faire le trajet, mais quand on cherche sur GeoVélo, ben on va voir un trajet qui passe par un endroit auquel on n'aurait jamais pensé, parce qu'en voiture, on passe pas par là, vous voyez, donc on connaît pas cet itinéraire. Le trajet qu'on fait en voiture, c'est sur des voies plus roulantes, qui sont souvent, malheureusement, peu aménagées. Et voilà, donc c'est la première chose, c'est d'essayer d'utiliser ces outils, justement, qui vous aident à trouver le trajet le plus sécurisé possible.
Allez, 9h40 dans Je pense donc que j'agis. Après Luc, Isabelle, nous avons Lydia au 04 72 38 20 23. Bonjour Lydia. Lydia, est-ce que vous êtes avec nous? Eh ben Lydia n'est pas là. Si vous nous entendez, vous nous rappelez avec grand plaisir. Vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr ou sinon dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je vous lis un message très court, Anne, qui m'a fait sourire. Hein. C'est juste une petite anecdote. C'est une auditrice, Geneviève. Marie-Hélène, qui nous dit: si Jésus se déplaçait, il se déplacerait en vélo. À vélo, il a un vélo dans le cœur. Voilà, j'ai trouvé ça assez mignon.
Il a
mignon.
Un vélo dans le cœur.
Ouais, ouais, voilà. C'est une petite anecdote.
Ça se commente pas.
Non, ça se commente pas, ça se lit.
Voilà. Alors, on ne dit que du bien du vélo. On commence à percevoir à travers vos témoignages le pouvoir de transformation aussi que comporte cet outil. Et en même temps, même s'il y a de plus en plus de gens, on l'a dit, à utiliser le vélo, pour l'instant, on peut pas dire que ce soit un moyen de transport de masse. Il y avait eu une tribune d'ailleurs dans Le Monde il y a pas très longtemps, co-signée par Olivier Schneider, qui est le président de la FUB, et Jean-Marc Jancovici, je crois, qui est appelé à faire du vélo un moyen de transport de masse. Alors, pourquoi le passage à l'échelle supérieure ne se fait pas, selon vous, Priscilla Parard? Quels sont les freins, en fait, quoi, et comment on pourrait les lever?
Les freins, il y avait un rapport aussi du Shift Project qui s'appelait « Déconstruire le système voiture », et en fait, ce serait plutôt aussi de construire ou de conforter un véritable système vélo, hein, comme le dit l'économiste Frédéric Grand, c'est-à-dire il faut des aménagements, hein, qui soient continus, qui soient connectés, il faut des services, c'est-à-dire est-ce qu'on peut stationner son vélo chez soi, au travail, dans l'espace public, des services, par exemple des écoles de remise en selle, des ateliers de réparation. Il faut aussi un trafic apaisé quand on peut pas mettre les vélos sur des aménagements, et tout ça met du temps. En fait, donc je crois qu'une ville comme Grenoble aujourd'hui, c'est, enfin, la métropole, c'est 16% de part modale. Je crois que c'est une des parts modales les plus importantes en France, sachant que à Copenhague, je crois que des fois l'été, ils y sont à 60%, c'est-à-dire 60% des gens qui se déplacent à vélo. Mais parce qu'il y a une construction en termes d'urbanisme, en termes de culture vélo qui s'est mise en place. Hein. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles de mettre en place. Donc ça, je pense que ça prend du temps. Parce que il y a de l'humain, il y a de l'aménagement, il y a aussi des situations, comme on disait, dans le milieu rural ou le périurbain, où il y a travaillé aussi sur tout ça. Et quand je dis aménagement, on réfléchit beaucoup aujourd'hui à pas forcément construire des aménagements publics, par exemple cyclables, mais aussi par exemple déclasser certaines routes, itinéraires secondaires. Je crois que c'est fait en ce moment en Ille-et-Vilaine et dans la Manche pour les rendre dédiés aux mobilités douces, c'est-à-dire la marche, le vélo, les véhicules intermédiaires, et ou de mutualiser par exemple des chemins agricoles. Moi qui suis dans les Hautes-Alpes, c'est ce que je fais en fait. Hein, donc voilà, mais ça prend du temps. Voilà, parce qu'on est sur une échelle humaine. Alors vous allez me dire, il y a des urgences écologiques, mais voilà, je pense qu'il y a quand même aussi un manque d'investissement, même s'il y a une stratégie, en tout cas en France, qui a investi plus d'argent. Alors il faudrait demander au collectif vélo, je pense qu'ils trouvent que c'est encore insuffisant, mais voilà, il y a ce projet de d'appel à territoire cyclable pour faire des territoires plutôt en milieu ruraux qui soient des exemples, un peu des démonstrateurs. Donc voilà, il faut de l'argent, il faut du temps. Donc voilà.
Sur la même question, Aurore Fabre-Landry, d'autres freins ou d'autres pistes pour faire, pour passer à l'échelle supérieure?
Oui, alors bien sûr, il y a cet effet de maillon faible sur le vélo qui est très très bloquant. Hein, c'est-à-dire que si vous avez ne serait-ce qu'un kilomètre de votre trajet qui est dangereux, ça vous empêchera de faire tout votre trajet. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a pour réellement passer à la vitesse supérieure, faut avoir atteint un niveau de maillage très élevé. Donc c'est pour ça que ça donne parfois l'impression. Beaucoup de collectivités avancent, font de plus en plus d'aménagements, apaisent de la voirie, et pour autant, elles voient les parts modales vélo qui augmentent, mais tout doucement, petit à petit. Donc il faut y croire en fait et comprendre qu'il y a un moment où quand on pourra vraiment faire une proportion importante de ces trajets de bout en bout en sécurité, ben là ça basculera de manière plus massive. Là à Paris, c'est quand même passé quelque chose. Vous voyez, on est à 10% de part modale vélo. Alors ça reste extrêmement modeste par rapport aux 50% de Copenhague. Je crois que c'est le chiffre sur les trajets domicile-travail. Mais par rapport aux 2% d'il y a quelques années, c'est déjà considérable. L'autre aspect, c'est que tant qu'on est dépendant de la voiture, vous voyez, tant que vous n'avez pas finalement des alternatives suffisantes. Pour moi, les alternatives donc à la voiture, c'est bien sûr la marche, le vélo, hein, donc les modes actifs, mais c'est aussi les transports en commun, parce que parfois on va trop loin pour y aller à vélo, le train, et c'est la combinaison harmonieuse de tout ça. Et puis c'est aussi des voitures en autopartage qu'il faudrait, parce que malgré tout, dans votre vie, il y a quand même des trajets que vous n'arriverez jamais à faire ni en vélo ni en transport en commun. Ces jours-là, faut que vous puissiez louer une voiture pour 2 heures pour la journée. Et quelque part, tant qu'il n'y a pas ce système en place, vous avez besoin d'une voiture. Donc, vous payez déjà votre voiture. Et finalement, votre vélo, pour peu que vous soyez dans le monde rural, les distances sont quand même assez longues. Donc, ce serait un vélo électrique. Donc, en fait, il viendrait en plus de votre voiture. Voyez? Donc, ce serait un coût supplémentaire et non pas à la place. Donc, vous avez un vrai sujet comme ça de transition aussi en coût. Et pour ça, je pense que aider à l'accession, par exemple, comme le font de très nombreuses villes, d'avoir des flottes de vélos assistance électrique en location longue durée pour permettre aux gens d'essayer, de tester à un faible coût, sont l'une des actions du bouquet nécessaire pour aider cette transition.
Joseph Dalian, dans ce que dit Aurore Fabre-Landry, on entend que c'est pas nous avec nos petits bras qui allons réussir à faire tout ça, et qu'il y a vraiment une dimension collective et politique là-dedans.
Tout à fait. Enfin, moi, ce que ça m'évoque, c'est que on voit bien la place de l'automobile, donc le système automobile, donc un monde qui est centré autour de l'usage de l'automobile, c'est devenu un édifice redoutablement robuste. Et voilà, développer les alternatives, c'est quelque chose, mais en fait, ça ne se fait pas s'effondrer. En fait, tant que le maillon, la manière dont on imagine les déplacements. En France, c'est l'automobile. Ça restera forcément un peu compliqué d'imaginer quelque chose d'autre. Moi, ce qui me semble, au-delà de tout ce qu'ont dit les collègues, ce qui me semble manquer aussi, c'est la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que on voit bien hein, dans tout projet de transformation de l'espace public, il y aura forcément quelqu'un pour venir défendre sa place de stationnement, ou en tout cas pour défendre le statu quo. Et donc, c'est vraiment important qu'aujourd'hui, les personnes qui savent ou en tout cas qui pensent qu'on ne peut pas continuer comme avant et qui espèrent qu'on va être capable de transformer l'espace public pour le rendre plus accueillant pour les enfants, plus convivial, plus écologique, qui souhaitent qu'on réfléchisse autrement à l'aménagement du territoire. Il faut que toutes ces personnes se mobilisent, soient présentes, jouent leur rôle de citoyens, d'aiguillons, pour réussir justement à mener cette transformation collective. On peut, je pense, grâce au vélo, se libérer individuellement. Enfin, dès aujourd'hui, il est possible de prendre des décisions qui peuvent changer très positivement votre vie, dans la mesure où vous vous mettez pas trop en danger sur la route. Mais cette libération collective ne pourra être complète que quand elle sera. Cette libération individuelle ne pourra être complète que quand elle sera collective. D'où l'importance, je pense, de se mobiliser. D'où l'importance d'avoir plein d'associations pro-vélo, ou en tout cas qui travaillent sur l'espace public et la marche, le vélo et toutes ces alternatives à travers le territoire. Donc juste pour vous donner une anecdote que je trouve intéressante, moi, quand je suis devenu secrétaire général de l'AFUB en 2017, il y avait 200 associations membres à travers le territoire. Quand je suis parti en 2021, il y en avait 450. Il me semble que là, on a atteint les 600. Et donc, cette dynamique, pour moi, est vraiment très, très enthousiasmante et a un signe d'espoir.
On a retrouvé Lydia au 04 72 38 20 23. Bonjour Lydia.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Allez, on vous écoute.
Eh bien, moi je suis une cycliste depuis plusieurs années sur Lyon, sur la colline de Fourvière. Et depuis 3 ans, j'ai choisi comme véhicule pour ma société un vélo cargo qui me permet de me passer complètement de la voiture en zone urbaine et en zone semi-urbaine. Et comme disait votre interlocutrice tout à l'heure, j'ai maillé ça avec un abonnement en autopartage et une carte de transport en commun. Et donc, ça nous met beaucoup de joie de pédaler avec mes enfants. J'ai deux grands qui sont autonomes, qui circulent en vélo. Et le dernier qui a commencé à être assis dans le vélo cargo pour les transports et puis maintenant qui a son vélo et qui me suit. Et ouais, c'est surtout de la joie. J'ai découvert qu'on pouvait se déplacer en étant joyeux.
De la joie avec le vélo. Eh ben, écoute, oui.
Voilà, c'était juste. Et puis, je suis une fidèle auditrice depuis 2 mois. J'adore votre radio.
Ah ben, c'est sympa, Lydia. Ça fait plaisir d'entendre ça. Eh ben, j'espère que vous allez continuer de nous écouter. Ça nous fait plaisir. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Aurore Fabre-Landry, derrière le témoignage de Lydia, je pense qu'on peut aussi soulever la question de la transition des entreprises vers le vélo. Ça, c'est un vrai sujet.
Oui, absolument. C'est vrai que les entreprises peuvent jouer un rôle de plusieurs manières différentes. Alors, on peut penser dans un premier temps à tout ce qui va être la cyclo-logistique, par exemple. Une étude avait montré, il y a quelques années, quand dans les zones urbaines, la moitié des livraisons pourraient être faites en vélo-cargo, justement, vous voyez, divisé par 2 le nombre de véhicules de livraison, ce qui est très intéressant, évidemment, pour la congestion, pollution, etc., occupation de l'espace urbain. Vous avez de nombreux métiers qui commencent à... Voilà, dans lesquels vous avez des plombiers qui commencent à faire leur tournée à vélo. Voilà, avec un vélo cargo, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et puis après, dans un tout autre registre, vous avez le sujet donc des véhicules de société et des véhicules de fonction. Donc faut savoir que ça, c'est une très forte incitation à l'usage automobile. Parce que quand vous avez donc une voiture qui vous est affectée, où vous ne payez en gros... rien, je dirais, si vous l'utilisez plus. Vous voyez, c'est y a un peu quelque chose qui est déduit de votre feuille de paye tous les mois, mais après, le carburant est offert, etc. Ça vous encourage extrêmement vivement à l'usage de la voiture. Et aujourd'hui, les entreprises un peu pionnières remplacent ce dispositif par des forfaits mobilité qui vont vous offrir, je dirais, l'équivalent de cet avantage en nature pour utiliser, acheter des billets de train, s'abonner donc à un dispositif d'autopartage, acheter un vélo assistance électrique. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est vraiment un axe de responsabilité RSE, sociétale et environnementale des entreprises, justement, d'arrêter de favoriser cet usage automobile.
Bonjour Ségolène.
Bonjour.
Vous êtes à Saumur, c'est à vous.
Oui, bonjour. Je rebondissais moi, sur le caractère électrique des vélos et puis les mises en garde un petit peu d'un cycliste sur le vélo pour ceux qui n'ont pas la condition physique, etc. Parce que je suis médecin, je passe mes journées à promouvoir l'activité physique et notamment le vélo. Et c'est vrai que le vélo électrique souvent a une connotation... pas efficace ou enfin pas utile parce que c'est assisté et donc c'est pas physique. Et en fait, c'est un très bon moyen de d'abord de s'y remettre pour ceux qui ne sont pas du tout en condition physique, au contraire. Et les cardiologues disaient même que la consommation d'oxygène à vélo électrique, comme on fait moins d'efforts quand même, parce qu'on est assisté, en fait on est moins sujet à tout ce qui est pollution, notamment dans les centres-villes, parce qu'on consomme moins et surtout ça nous permet de faire des plus grandes distances parce qu'on peut être plus endurant plus longtemps, étant donné qu'on est assisté. Et donc c'est pas du tout à négliger comme comme coup de pouce, en tout cas pour se remettre en selle, parce que je partage aussi les mises en garde de ce cycliste sur les gens qui ne sont pas forcément conditionnés à l'effort. Et je voulais refaire un peu la pub du vélo électrique qui parfois est un petit peu mis de côté parce que c'est pas du vrai. Voilà.
Merci beaucoup Ségolène pour votre témoignage. Priscilla Parard, peut-être qu'on peut justement évoquer les vertus santé du vélo, puisque Ségolène nous parlait à l'instant des bienfaits au niveau du cœur du vélo.
Oui,
Et c'est vrai que, juste pour refermer la parenthèse, des fois, c'est un peu, ce fut un moment un peu clivant dans les milieux vélo, en disant vélo musculaire versus vélo assistance électrique, mais le vélo assistance électrique, on fait les mêmes efforts. Et voilà, je pense que ça lisse les reliefs, ça lisse, enfin, ça permet, notamment en milieu rural, de faire des choses, et enfin, moi, je suis forcément pour, enfin, voilà. Et au niveau des vertus en termes de santé, donc en fait ce que montrent certaines études, donc là il y avait une étude récente qui a été publiée au Lancet, notamment avec un co-rédaction du chercheur Kevin Jean, qui montrait qu'un kilomètre de vélo parcouru revenait à éviter un kilomètre de coût social. Hein. Donc dans le coût social, il y a plus que les coûts médicaux, mais en gros, en fait, c'est ce que disait Ségolène, que effectivement, c'est tous les bénéfices d'une activité physique régulière hein, et de lutte contre la sédentarité, puisqu'on fait face un peu à une épidémie de sédentarité. C'est-à-dire que ça maintient l'équilibre, ça joue aussi, c'est un facteur de protection contre le diabète de type 2, contre certains cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, ça maintient l'équilibre, ça permet aussi de diminuer la fréquence de certaines maladies neurodégénératives, enfin voilà, dans le cadre encore une fois d'une activité régulière, soutenue. Et puis aussi sur la santé mentale aussi, on en parle, parce que on est en vélo, on sécrète des bonnes hormones, on ne bivouaque pas tout seul à vélo, on traverse des beaux paysages. Donc effectivement, avec le maître mot de s'écouter et d'en faire à son rythme, c'est... Moi, j'avais rencontré du coup aussi un médecin du sport quand j'avais écrit mon livre. Et en fait, voilà, elle était aussi très motrice, elle demandait vraiment... elle encourageait ses patients à se mettre au vélo. Voilà.
Je voudrais évoquer un sujet qu'on a juste effleuré depuis le début, c'est le fait que le vélo continue d'apparaître encore assez souvent comme quelque chose de réservé à une élite sociale, certains diraient un moyen de transport pour les bobos. Joseph Dalluin, vous dans votre livre, vous commencez par évoquer d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes pour creuser un peu cette question-là.
Alors c'est un peu ambivalent, que comme le disait Luc tout à l'heure, en milieu rural ou en tout cas dans certains milieux sociaux, faire du vélo c'est au contraire le signe d'une forme de déclassement. Mais effectivement aujourd'hui en ville, pour moi c'est un problème, il y a un peu un risque, c'est-à-dire que la pratique du vélo est tractée par un milieu social particulier qui me semble pas forcément être le milieu social dominant dans la société, mais en tout cas qui c'est un certain nombre de signes d'une forme d'homogénéité des gens qui font sociale, des gens qui font du vélo, et je pense que c'est inquiétant parce que le vélo est voilà a vocation à être un mode de déplacement pour toutes et tous, un mode de déplacement de masse comme vous disiez tout à l'heure. Moi, ce qui m'a interpellé au moment des Gilets jaunes, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a émergé à peu près au même moment où on commençait à faire des bons en termes de considération du vélo comme solution de déplacement. En septembre 2018, le Premier ministre annonçait un plan vélo. C'était une première, on va dire. Et deux mois plus tard, émergeaient les Gilets jaunes avec... c'est difficile de qualifier ce que sont les Gilets jaunes, mais... avec en leur cœur la question de la dépendance à l'automobile, la vulnérabilité des systèmes de déplacement à la place de l'automobile. Il y avait comme si ces deux mondes ne s'étaient pas croisés. Et je pense que ça, c'est vraiment un risque important. Fort heureusement, depuis, il y a aussi de plus en plus de personnes qui promeuvent le vélo en milieu rural comme solution de déplacement au-delà des centres-villes. Et il me semble que, fort heureusement, le mouvement pro-vélo, en tout cas les dynamiques positives autour de l'usage du vélo, sont sorties des centres-villes, sont présentes en banlieue, sont très sensibles à la question des personnes à qui elles parlent, à l'image qu'elles renvoient. Et je pense que en France, on a peut-être encore quelques précautions à prendre, mais en tout cas, dans les mouvements anglo-saxons et dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est assez central de dire le vélo, c'est un outil de libération collective et pas uniquement pour quelques-uns dans quelques endroits seulement.
Merci parce que vous êtes en train de nous faire la transition pour la deuxième heure de l'émission autour du développement du vélo en monde rural. En 30 secondes, Priscilla Parard, à quoi vous auriez envie d'inviter les auditeurs et les auditrices en cette fin d'émission ?
Bah, j'ai envie juste de les inviter de se mettre en selle, donc mais pour se faire dans des bonnes conditions, avec un ami, dans quelque chose qui est sécure pour eux, parce qu'en fait, et je renvoie toujours, comme il y a 2 ans, à ce très beau texte que vous trouvez sur Internet du Parlement des écrivains de 2015 par Jacques Gamblin, qui a un très bel éloge du vélo, mais voilà, faites du vélo.
Aurore Fabre-Landry, même exercice en quelques secondes.
Le même, alors si c'est autour de chez vous, c'est difficile, essayez peut-être pendant les vacances. Mais en tout cas, voilà, goûtez le plaisir de vous remettre en selle et petit à petit, vous verrez que vous essaierez de plus en plus d'endroits.
Joseph Daluan, en 2 mots.
Eh bien, mobilisez-vous pour que la France entière devienne cyclable.
Et puis lisez Réenchantons le vélo de Priscilla Parard aux éditions Terre Vivante et lisez La bataille du vélo de Joseph Daluan aux éditions de l'Escargot.
Voilà des conseils à la chaîne, hein, c'est le cas de le dire, je me permets, ça me démangeait depuis le début de cette émission. Merci vraiment à tous les trois pour vos témoignages. Merci Anne.
Merci
pour cette émission. Et dans un instant, alors vous l'avez bien dit, on va aller à la campagne, dans les zones rurales, on va voir un petit peu comment on peut développer le vélo, toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous rencontrez des difficultés ou alors si au contraire vous avez trouvé quelques solutions. Vous pouvez également témoigner par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis. Merci à l'équipe de Gap et à Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. À tout de suite.